Retrouvez-nous le lundi à 18h sur les ondes de CKIA FM 88.3.
Vous aviez envie de faire une différence, de rencontrer des gens sympathiques et de goûter à notre bonne cuisine? La Baratte, organisme pour la sécurité alimentaire et l'insertion sociale, est à la recherche de bénévoles en cuisine et pour la livraison des repas de la popote roulante. Joignez-vous à nous pour vivre une expérience de bénévolat plus qu'enrichissante. Téléphonez au 88 527 1173 ou visitez labaratte.ca.
Résonance. 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 Les jeudis soirs, de 21h à 23h, 2 heures de la meilleure musique électronique à Québec. Sur les ondes de CKIA FM 88.3, c'est Résonance.
Bonjour, ici Aude Malaret, voici vos nouvelles du mercredi 25 mai. Le responsable solidaire en matière de travail, Alexandre Leduc, propose de créer un droit au télétravail afin de prévenir son recul auprès des travailleurs et des travailleuses qui voudraient le maintenir. Québec solidaire explique que le droit au télétravail pourrait faciliter les choses pour beaucoup de gens ayant adopté cette pratique lors de la pandémie. Ce que Québec solidaire propose est audacieux. On veut créer un droit au télétravail hybride et volontaire qui serait incorporé aux normes du travail. Cela veut dire qu'une personne qui le souhaite serait en droit de demander à faire jusqu'à la moitié de son temps de travail à distance. Ultimement, ce droit permettrait aux gens de continuer de bénéficier des avantages du télétravail, explique le député. C'est ce samedi 28 mai qu'aura lieu la deuxième édition du Coup de pouce de Limoilou, une distribution de plantes et arbustes organisée par les conseils de quartier du Vieux-Limoilou et de Léré. Les résidents et résidentes des deux quartiers sont invités à profiter de cette distribution de 10h à 14h dans le stationnement de la Caisse des Jardins de Limoilou et dans le stationnement de l'église Saint-Albert. Les plantes vivaces qui seront distribuées à cette occasion ont été spécifiquement choisies en fonction des espaces disponibles dans Limoilou, des types de sols et de l'éclairage propre au quartier. Ainsi, une dizaine d'espèces et de plantes seront offertes. De plus, afin d'accompagner celles et ceux qui veulent expérimenter le jardinage, des spécialistes de crack bitume seront sur place afin de dispenser astuces et conseils. Les élèves des trois écoles primaires du quartier Saint-Sauveur et le conseil de quartier de Saint-Sauveur lancent une campagne d'affichage pour sensibiliser les automobilistes à l'importance de rouler prudemment afin d'assurer la sécurité des enfants. Le personnel scolaire et les élèves des écoles Marguerite Bourgeois et Saint-Malo sortiront dans la rue ce mercredi pour manifester autour de leur école en portant des messages de sécurité et de prudence. Des animations festives et ludiques sont prévues avec la distribution de constats de bonne conduite ou du marquage artistique temporaire sur les trottoirs. Vous êtes invité à l'exposition Entre deux, une exposition des finissantes et finissants au baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l'Université Laval. L'exposition Entre deux se tiendra du 27 mai au 10 juin au 3e et 4e étage de l'édifice La Fabrique de 12h à 17h tous les jours. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, passez une excellente journée à l'antenne de CKIA FM 88.3 et ckiafm.org.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en disant « Thank you very much, Monsieur Trenet. » On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour. Dit-on.
Bonjour et bienvenue à l'émission Le Jardin Pain Reçu sur les ondes de CKIA FM 88.3. Je m'appelle Larry Hodgson et on va bien sûr parler de jardinage ce matin. Je suis chez moi dans mon sous-sol, comme d'habitude. Et je vais commencer avec une bizarre anecdote. Moi, vous avez vu, presque partout au Québec, au moins dans la vallée du Saint-Laurent, on a des gros vents. On n'a pas eu de tornade, paraît-il, mais des vents très, très forts. Je dois dire très honnêtement, côté jardinage, chez moi du moins, ça n'a pas affecté. En partie peut-être parce que la veille, littéralement la veille, mon fils était ici. Et je l'ai fait couper des branches que je jugeais risquées, là, mal placées, puis peut-être en train de tomber. Fait qu'il avait fait le ménage juste avant que ça arrive. Ça, c'est un hasard, là, c'était pas exprès. Mais quand même, c'est bien. Fait qu'il n'y a pas de dégâts. Par contre, ce qui est arrivé, c'est qu'on a manqué d'électricité pendant 14 heures. Ici, vous dites, bon, OK, c'est long, le congélateur, le frigo, des choses comme ça. Mais moi, je dépends de l'oxygène. Hein? J'ai besoin d'oxygène. Et j'ai un concentrateur d'oxygène mu par l'électricité qui ne pouvait pas fonctionner. Littéralement, je me suis rendu à 5 minutes de la crise. J'avais finalement calculé que j'avais 14 heures avant que je pouvais fonctionner. Et 13h50. 5, l'électricité est revenue. Wow! Tout près, tout près. Qu'est-ce qui serait arrivé? Il ne faut pas paniquer, là. C'est juste que il fallait que j'aille à quelque part où je pouvais brancher l'électricité. Vous imaginez, à 5 minutes d'avoir un problème, j'étais déjà organisé. J'allais chez mon beau-fils, on allait se brancher là. Tout était organisé, mais je ne l'avais pas encore fait. Et 5 minutes plus tard, je serais parti avec mon appareil. Et on serait branché, j'aurais survécu quand même. Mais il reste quand même, ça change pas mal la façon de faire. Hein? Quand vous êtes limité par un appareil qui vous garde en vie, c'est différent. Et voilà, assez pour ça. Parle un peu de jardinage. Je voulais quand même souligner quelque chose d'intéressant, notamment pour les gens de la région de Québec. C'est de savoir que les mosaïcultures s'en viennent. Hein? C'est dans un mois, c'est le 24 juin que ça commence. Ils ont besoin d'aide. Ils cherchent les bénévoles et les employés. Donc, si vous aimez le jardinage et que vous pouvez vous rendre, c'est quand même au bois de Coulonges, qui était juste à l'entrée de la ville, si on veut, côté ouest. Pourquoi pas? Ça vous donnerait peut-être un travail bénévole ou payant, peu importe. Ça pourrait être intéressant. Si vous aimez le jardinage, je sais que moi-même, si je suis utile pour quoi que ce soit, je me serais inscrit. Je trouve ça tellement formidable. J'aurais d'or aimé ça, travailler avec cette équipe-là. mais ce n'est pas possible pour moi, mais pour vous peut-être. Donc, pensez-y. Allez sur le site de la Mosée Culture Internationale, tâchez de trouver, et vous allez certainement cliquer et dites que vous êtes intéressé à travailler avec eux. Je suis certain qu'ils vont être très, très contents d'avoir votre aide. Donc, voilà pour cet aspect-là. Et donc, préparez-vous à ça, n'oubliez pas d'y aller. Hein. On peut déjà acheter des billets. Ce n'est pas trop tôt pour y aller. Donc voilà, on va voir bientôt les mosaïques culture. Mais pour l'instant, retournons à la vie à tous les jours et pas quelque chose qui commence dans un mois. Et on va demander à Michel de lire quelques-unes de vos questions. Voilà, Michel, c'est ton tour.
Oh, oh. On va y aller avec la question de Joanne Demers. Elle a une question à propos de la rhubarbe. Est-il préférable de couper les tiges des fleurs qui sont déjà poussées?
Non, non, ça ne change pas grand-chose. Vous savez l'idée qu'il faut couper les fleurs. La rhubarbe, c'est un petit détail. Ça n'a pas d'importance. Vous pouvez les couper, pas couper. Ça ne change rien pour la plante. Les gens le faisaient parce que, à l'époque, vous savez, il ne fallait pas faire des choses réjouissantes. Tout ce qui était fleuri, c'était béni. Fait que, coupant les fleurs, il faut souffrir dans la vie. Mais là-dessus de changer, on aime ça, les belles choses. Ils sont magnifiques. Hein? Quelle belle plante. Hein? Mais vraiment superbe. Donc, personnellement, il se doit faire. Bon, qu'ils ont 40 ans au moins que je cultive la rhubarbe moi-même et peut-être 10 ans de plus avec mon père. Je n'ai jamais coupé. Mon père a toujours coupé les fleurs. Moi, je ne l'ai jamais fait. Et j'ai toujours de magnifiques floraisons. C'était superbe. Mais superbe. Puis après, il y a toujours le risque que ça se ressemble un peu. Mais c'est surtout les oiseaux. Oh mon Dieu, les oiseaux adorent les graines. Alors, moi, je trouve ça terrible de se priver de belles fleurs et de priver les oiseaux de la nourriture. Comment on arrive? Il faut laisser faire. Puis la production est pareille, je ne vois aucune différence. Donc vraiment, pourquoi pas laisser faire? Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais moi, je laisserai les fleurs en place. Voilà.
Une autre question de Danny Marin. Quand pourrais-je sortir mes langues de belle-mère sans risquer de les perdre? Et à l'automne, quand les rentrer? Elles sont pratiquement toujours à l'ombre.
Oui. Bon, écoutez, là, il faut parler de plantes tropicales. Ce n'est pas juste... On a quand même des plantes qui sont qui n'aiment pas le gros froid, mais tropical, c'est tropical. C'est-à-dire que dans la nature, cette plante-là ne subit jamais en bas de 16, 15, 16 degrés. Et on peut, ça peut tomber un peu moins, mais moi, je viserais ça. Donc, moi, je dirais de sortir le jour, si vous voulez, pas de problème s'il fait chaud, parce que quand même, à Québec, il fait froid, là. Les gens qui ont planté leurs tomates juste la veille d'une journée où on a passé près de gel, c'est incroyable de penser ça, mais bien les gens l'ont fait. Il n'y a rien à comprendre des fois avec les gens. Mais pour vous, là, attendez. Quand vous commencez à voir le température nocturne qui reste près de 15-16 degrés, c'est le moment pour les laisser plus longtemps ou toute la nuit. Et donc, moi, je regardais quand même deux semaines à l'avance. On n'est même pas proche de ça. C'est jusqu'à la deuxième semaine du mois de juin, au moins, ça va tenir 10-12 la nuit. Fait que c'est... C'est parfois froid, mais c'est trop froid pour cette plante-là. Attendez. Vous pouvez laisser dehors, mais pas trop longtemps à l'automne. Encore, quand vous commencez à avoir des températures baissées en bas de 15 degrés, pensez-y. Temps de la rentrée. La plante, comme vous dites, votre plante est à l'ombre. Il ne faut pas la mettre trop serrée au début. Il faut l'acclimater peu à peu. Mais la plante va beaucoup profiter. Ça donne essentiellement une sortie à l'extérieur pour une plante comme ça, qui passe tout son temps à l'ombre dans la maison. C'est vraiment une chance de recharger ses piles. C'est pas exactement ça, mais c'est comme ça. La plante est capable de refaire des ressources, mettre des réserves de côté, parce qu'elle a eu quand même plus d'éclairage pendant quelques temps l'été. Voilà.
Excusez-moi. José René, est-ce que le bois ramil fragmente peut être un pays ou au potager? Pour les tomates, merci.
Oui, le bois ramial fragmenté. C'est ça, Michel, le bois ramial fragmenté, mais les accents, des fois, ne paraissent pas dans les courriels. Donc, voilà. Bois ramial fragmenté, c'est quoi, donc, pour ceux qui ne savent pas? Ce sont des branches déchiquetées avec leurs feuilles. Ce ne sont pas des grosses branches, c'est des petites branches, des branches secondaires. Et l'idée est qu'on a du bois neuf et des feuilles. Donc, plutôt que le vieux bois qui est surtout de carbone, puis ça se décompose pas. Là, vous avez un mélange de jeunes tissus et c'est très, très riche. Donc, oui, ça peut aller sur le potager. Il n'y a pas de problème. Souvent, on va l'utiliser quand même sur les plantes plus permanentes, parce que ça dure quand même quelques années, mais on peut bien l'utiliser sur les tomates. Il n'y a pas de problème avec ça.
J'ai une question un peu de terminologie de quelqu'un qui ne connaît pas ça. On emploie des fois le mot potager et oui. Le mot jardin.
Oui.
C'est la même chose? C'est deux synonymes? C'est différent?
OK. Là, vous avez une situation d'habitude, si on veut. Parce que le mot potager serait le mot plus précis pour dire un endroit où on cultive des légumes. Ça, c'est un potager. Au Québec, on l'a associé avec jardin. Jardin est plus global. Le jardin, c'est un endroit où on fait de la culture. Peu importe quoi. Fleurs, arbres, arbustes, légumes. Théoriquement. Mais au Québec, autrefois sans doute, le jardin, c'était un potager. Et que les gens disent le jardin, et personnellement, je le comprends, quand quelqu'un parle de son jardin, dans un sens, je saisis que c'est le potager. Mais des fois, les personnes peuvent parler de son jardin, et je vois bien qu'il veut dire plus. Donc, c'est plus vague, mais essentiellement, potager, c'est spécifiquement légumes, et jardin peut être légumes ou plus global, selon la personne qui parle et les situations.
Très belle explication. On va y aller maintenant avec la question de Brigitte Roy. Elle dit « J'ai établi une nouvelle plate-bande tôt au printemps. Depuis quelques jours, je constate l'éveil d'une fourmilière à proximité. Je n'ai pas encore planté mes végétaux qui seront de nature moitié potagère, moitié ornementale. Que devrais-je faire? Planter des végétaux répulsifs pour les fourmis ou accepter leur présence? Je ne veux pas risquer que les fourmis se déplacent et se rapprochent de la maison. »
OK. Moi, je dirais, vous n'avez pas rien à craindre. Là. Et il faut comprendre certaines choses sur les fourmis. D'abord, je ne sais pas quelle sorte de fourmis, mais essayez donc d'expliquer les différences de fourmis à la radio. Mais il y a plusieurs sortes, hein? Pas juste une sorte. Mais les fourmis, pour la plupart, sont soit bénéfiques ou bénéfiques et un peu nuisibles. C'est un peu dans ce groupe-là. Mais la plupart ne font pas de tort. Très, très rare que c'est du tort. Donc, normalement, au moins qu'il faut préciser que c'est une fourmilière quelconque, et normalement, il n'y a aucun problème pour un potager d'avoir des fourmis près ou dedans. Ce n'est pas un problème. Maintenant, dans la maison, les fourmis qui rentrent dans la maison peuvent rentrer n'importe où. Ça ne vient pas spécifiquement de l'endroit. Donc, il n'y a vraiment pas de lieu de craindre que les fourmis de ce nid-là, cette fourmilière-là, aillent dans la maison. Ça peut être informé d'ailleurs. Et quand elles rentrent, il faut penser, parce que les gens pensent, je suis certain que si les fourmis rentrent dans la maison, elles vont vivre dedans. Mais ce n'est pas ça qui arrive. Ce n'est vraiment pas ça. Les fourmis qui rentrent durant l'été, comme ça, cherchent la nourriture. Si les fourmis trouvent des graines de, je sais pas, de pain par terre, elles vont le ramasser. Ces fourmis-là ne restent pas dans la maison, ne vivent pas dans la maison, n'établiront pas une colonie dans la maison. Elles vont toujours sortir. Donc, ce n'est pas un problème majeur. Ça peut être que vous dérange, ben, d'accord. Créez une barrière pour pas qu'elles rentrent. Mais elles ne sont pas nuisibles à votre maison. Les fourmis qui causent des problèmes dans la maison, les fourmis charpentières, c'est pas comme ça que ça rentre dans la maison. La reine, donc, au milieu de l'été, il y a des volées de fourmis. Et à ce moment-là, il y a une reine qui vole, qui est fécondée et qui va chercher un endroit pour pondre des œufs et commencer un nid. Et là où elle s'établira, là, il va y avoir une colonie qui va se créer. Donc, si jamais, et là, je parle du milieu de l'été, ça arrive que la fourmi trouve une façon d'entrer chez vous, c'est une fourmi encore charpentière et qu'elle s'établit dans le bois de chez vous, ça, c'est un problème. Mais vous ne pouvez pas vraiment le savoir. Il n'y a pas moyen de savoir ça. Et les chances que ça arrive sont quand même minimales. Donc, ne craignez pas les fourmis. Les gens font beaucoup, beaucoup de soucis avec ça. Il ne faut pas. C'est presque jamais un problème, les fourmis.
On y va maintenant avec une autre question. Pardon. Celle de Ève Paquette. J'ai une question pour vous. Mon voisin a un muguet sur son terrain et ça se propage sur le mien. L'an passé, j'ai planté des vivaces tout près, mais elles n'ont pas repoussé ce printemps. Est-ce parce que le muguet est trop envahissant? Sachez que je ne peux l'éliminer. Je voudrais savoir ce qui cohabite bien avec le muguet. Merci pour votre réponse.
OK, voilà. Donc, le muguet, effectivement, c'est une plante très envahissante. C'est une plante européenne, c'est pas indigène. Donc, si jamais vous n'avez pas de planter, plantez-en pas. C'est pas comme si c'est une plante chez nous qu'il faudrait encourager. C'est plutôt une plante envahissante qui est théoriquement, on ne devrait pas planter. Mais voilà, vous l'avez. Vous n'avez pas le choix de l'endurer. Bon, qu'est-ce que c'est que vous pouvez faire avec ça? C'est simplement planter des plantes plus fortes. C'est vrai que le muguet, parce qu'elle pousse partout, parce qu'elle prend l'espace, elle prend les minéraux, elle prend l'eau, elle coupe la lumière, ça nuit aux autres plantes. Mais le muguet n'est pas capable d'étouffer une grosse plante forte. Donc, le truc, quand on plante, à travers même une dalle de muguet, c'est de planter des grosses plantes déjà bien avancées. Pas les petites plantes, des pots de 10 cm. Là. Quelque chose de solide, une grosse plante. Et comme ça, la plante va être capable de résister au muguet et vous allez réussir. Par exemple, les arbustes en général sont très bien avec le muguet. Le muguet pourrait servir de couvre-sol et l'arbuste étant plus grand et plus dense va garder sa place. Donc, je pense que vous serez mieux avec ça. Ou les grosses vivaces, disons un grand hosta, par exemple, qui va... Ça, c'est le genre de choses à planter. Mais les petites plantes ont des difficultés toujours quand le muguet est en train de voler l'espace.
On y va maintenant avec une autre question, celle de Clémentine. Clémentinise. Mon avocatier a des endroits plus pâles entre ses veines, entre guillemets. J'ai ajouté de l'engrais car je pensais à un manque de nutriments. Qu'en pensez-vous?
Écoutez, c'est une possibilité. C'est sûr que quand une plante manque de certains minéraux, ça peut avoir des effets sur le feuillage. Donc, ça se peut que ce soit ça. Tu peux être trop sec aussi, malgré qu'au printemps, habituellement, c'est moins un problème que l'hiver. Mais vous avez assez, vous avez bien. Et, évidemment, ça ne corrigerait pas nécessairement le problème. C'est les prochaines feuilles qui vont le dire. Mais c'est pas mauvais. Et beaucoup de gens cultivent leur avocatier dans de l'eau. Alors, c'est sûr que ça va manquer de minéraux éventuellement. Il faudra vraiment se pousser dans du terreau si vous voulez le garder à long terme.
Joanne Demers, autre question sur les asperges. Ma production a l'air de vouloir arrêter déjà. Les longues tiges qui montent en graines ont commencé à pousser et les fines tiges qui font les feuilles aussi. Doit-on couper ces tiges pour prolonger la récolte?
Non. J'explique comment ça fonctionne. Donc, l'asperge, c'est une plante de longue vie, c'est une vivace, elle fait des turions, des tiges qui poussent au printemps, qu'il faut couper rapidement si on va faire une récolte. Et normalement, on peut les récolter jusqu'à ce qu'ils commencent plus bas que le taux du petit doigt. Et après ça, on laisse la plante faire. Parce que ce qu'il faut comprendre chez vous, c'est qu'il faut quand même laisser la plante faire son feuillage si vous voulez que ça revienne l'an prochain. Certaines tiges doivent survivre, doivent pouvoir faire de la photosynthèse de façon à ce que la plante puisse faire des réserves d'énergie et revenir l'an prochain. Donc, c'est ça qu'il faudrait laisser faire au moins un certain nombre de ces tiges-là. Donc, je ne comprends pas exactement la situation, mais moi, je pense que la plante est peut-être partie trop vite. Et on a eu un coup de chaleur ce printemps assez bizarre. Et que la plante, plutôt que de pousser lentement, faire un tuyau qui tranquillement s'ouvre, ça peut être parti comme ça. Et donc, comme passer un peu le stade. Moi, je suggère de les laisser cette année-ci. Et si vous ne voyez pas de deltige dense, un tuyau dense, laissez faire et recommencez l'an prochain. Ça peut être ça. Autrement, je ne comprends pas exactement la situation.
Question. Encore une question personnelle. Je me gâte ce matin. Avec les changements climatiques qui sont, qu'on le voit, là, tu en as parlé en début d'émission, est-ce que la façon de jardiner va changer dans les prochaines années à court terme, à moyen terme, à long terme?
OK. Le problème, là, c'est qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que ça forme exactement. Jusqu'à maintenant, les changements climatiques dans notre région, je ne parle pas ailleurs, mais dans la région, ça n'a pas apporté plus de froid ou plus de chaleur l'hiver. On a bien vu, on a l'hiver aussi froid que jamais. Donc, on n'a pas gagné de chaleur hivernale. Ce qu'on a eu à la place, c'est plus de changements. Donc, on va plus rapidement entre chaud et froid l'hiver qu'avant. L'été, il fait plus chaud, mais le facteur limitant dans la région, c'est plus le froid d'hiver. On n'est pas des étés si chauds que ça. Oh oui, on sait, quand c'est 26, 27, on se plaint. Mais n'oublie pas, ailleurs, ça monte à 40 et plus, et que ça reste là. Donc ça, on n'a pas rendu là. Et à partir de 40, c'est là où ça commence à nuire aux plantes. Donc nous, ce n'est pas un problème estival. C'est ce que ça change, c'est l'irrégularité des choses. On se fie à avoir un système assez régulier. À l'automne, ça baisse, la température baisse tranquillement, l'hiver fait froid, ça réchauffe tranquillement, etc. Mais là, ça commence à sauter de l'un à l'autre rapidement. Mais pour l'instant, dans la région, ça se limite à ça. Puis il faut être prêt aux surprises. Des inondations, des tornades, des choses semblables, très rapides, mais c'est le genre de choses qu'on a pour l'instant dans la région.
Mm-hmm. Eh bien, merci. Maintenant, une question de Jeannette Ouellette qui, soit dit en passant, te dit anecdote enlevante. Quel timing à propos de ton anecdote de panne d'électricité?
Il a l'air, c'est incroyable, oui.
Et donc, sa question, après un départ difficile, mon magnolia Suzanne, plantée à Morin Heights, zone 4B, a bien prospéré ces dernières années. Ces jours-ci, il me sort ces magnifiques fleurs roses foncées, mais n'a presque pas de feuilles. Est-ce dû à la chaleur printanière hâtive qui aurait fait sortir les bourgeons trop tôt? Mais surtout, y a-t-il autre chose à faire pour l'aider ou le soutenir? Je crains qu'un manque de photosynthèse ne l'affaiblisse. Merci, généreux puits sans fond de connaissances horticoles. Oh, c'est beau ça!
Bon, maintenant, OK, d'accord. Pas de problème. Non, attendez, tout simplement. C'est que, selon le climat, les magnolias fleurissent avant la floraison ou pendant la floraison. Non, je recule, j'ai mal dit ça. Les magnolias font la feuillaison, la production de feuilles, soit après la floraison ou pendant. Et cette année-ci, à cause peut-être d'un climat spécial, plutôt que de commencer à faire des feuilles en même temps que la sortie des fleurs, la plante attend un peu plus. Et les feuilles vont venir. Il n'y a pas de raison de craindre quoi que ce soit. C'est tout à fait normal. Donc, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas à donner plus d'engrais. D'ailleurs, j'ai toujours peur que dès que quelque chose ne va pas, on va mettre l'engrais. C'est une mauvaise habitude, ça. D'habitude, quand ça va mal, hein, c'est jamais le moment de donner un engrais. On en donne un engrais quand on sait que la plante manque de minéraux. Si on n'est pas certain, mettez-en pas. Trop d'engrais, c'est mieux que pas du tout. Donc voilà. Moi, je pense que la plante va faire des feuilles normalement et tout va bien aller. Vous n'avez pas raison d'avoir peur. Et dans certains climats, c'est toujours comme ça. J'ai la même chose chez moi, sauf pas le magnolia. J'ai des azalées ici. Et habituellement, les fleurs commencent à s'ouvrir. Et dans 2 jours, les feuilles sont sorties aussi et ça cache l'impact un peu. Cette année-ci, lors de floraison, il y a eu complètement. Et là, les feuilles commencent à sortir. Donc, c'est encore plus beau que d'habitude. Mais là, les feuilles sortent. C'est pas la même plante, mais un peu la même façon de pousser.
Lise Doyon, elle veut savoir si on doit couper cette année les fleurs d'un lilas planté l'an passé. Il était en pot. Même question pour les bleuets.
Okay. Donc, normalement, on n'a pas besoin de couper les fleurs d'un lilas. Ça, c'est une vieille croyance. C'est pas la fin du monde, là, mais c'est du travail pour rien, dans le fond. Par contre, là, vous l'avez planté l'an dernier. Donc, la plante est encore jeune. C'est pas mauvais d'empêcher une plante de fleurir, un arbuste comme ça, le lilas qui est lent, qui est naturellement lent à pousser. Pas mauvais de l'empêcher de fleurir ou de réduire sa floraison pendant les premiers 3-4 ans. Le temps qu'elle soit bien, bien, bien établie. et là, vous pouvez laisser aller. Donc, oui, ce serait peut-être bien de les supprimer avant la floraison même. Laissez-le pas fleurir. Ou sinon, après. Pas de problème. Pour les bleuetiers, c'était l'an dernier. C'est encore une bonne idée d'attendre encore un an avant de laisser un bleuetier fleurir. Ça dépend. Des fois, on ne peut pas. Des fois, la plante fleurit un peu partout. Ce serait complètement fou d'aller supprimer des petites fleurs comme ça partout. Et si la plante de deuxième année fait juste quelques fleurs sur les lois, il n'y en aura pas assez pour faire une bonne récolte de toute façon. Enlevez-les. Laissez la plante bien s'établir. Quelque pour un arbuste ou un arbre, les deux premières années surtout, c'est l'année de l'établissement. Et une fois que la plante est bien enracinée, c'est surtout les racines, bien enracinée après 2 ans, là, on peut plus la laisser aller faire ce qu'elle veut.
Brigitte Roy. Au printemps, mon vieux IF, j'imagine qu'il manque un mot ou une lettre, du Canada était très abîmé du côté davantage exposé aux intempéries. J'ai coupé les bouts de branches roussies et il a retrouvé bonne mine momentanément. Toutefois, la détérioration se poursuit de ce côté de l'arbre, se détériore rapidement. Comment expliquer cette situation et prévenir le dépérissement?
Bon, d'abord, Michel, IF, c'est le nom d'une plante. Il y a bel et bien une plante qui s'appelle IF. Fait que voilà, explication. L'IF du Canada, c'est une conifère indigène, rarement vue dans les Jordains, hein? Très, très rare dans les Jordains, mais qui pousse en état sauvage, feuillage persistant, et des rares conifères qui réagit bien quand on les taille, comme Mme Roy a remarqué, a dit, elle a taillé, puis ça a repoussé. Moi, je pense, certainement, les conditions ont peut-être changé, la plante est peut-être plus exposée, et c'est peut-être ça qui cause le problème. C'est une plante quand même de sous-bois, hein? C'est pas une plante de soleil normalement. C'est rare, hein, un conifère qui va à l'ombre. Mais c'est le cas avec cette plante-là. Donc, je ne suis pas expert sur l'IF du Canada parce que je ne l'ai jamais essayé moi-même. Mais juste de le voir pousser dans la forêt, c'est pas une plante de soleil. Donc, peut-être que la plante trouve qu'il y a trop de soleil et qu'elle réagit mal pour ça. Mais éventuellement, peut-être soit le planter ailleurs ou planter quelque chose plus haut à côté pour donner de l'ombre. Parce que c'est une plante de milieu ombragé. Il faut penser à ça comme ça.
Monique Poisson. L'an dernier, j'ai semé des asperges et elles sont toutes sorties. Que dois-je faire la deuxième année? Zone 3.
La deuxième année, c'est la deuxième année. Donc, la deuxième année, vous laissez pousser, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de rien faire du tout, rien de spécial. Vous laissez continuer sa vie durant tout l'été. Elle va être plus grande la deuxième année, même très grande des fois. Et elle fait des belles feuilles. Les feuilles sont tellement petites. D'ailleurs, en fait, ce n'est même pas des feuilles. On appelle ça des tigelles. C'est tige avec E-L-L à la fin. Tigelles. Mais c'est ça qui fait la photosynthèse, c'est cette plante-là. Donc, c'est l'équivalent de feuilles. Donc, vous laissez faire tout simplement. Normalement, c'est la troisième année qu'on dit que la plante est maintenant assez forte pour supporter une récolte. Et donc, la troisième année, quand la plante, les tiges commencent à sortir au printemps, les turions qu'on appelle, quand ils ont atteint peut-être 20 cm de haut, vous les coupez à la base et c'est votre première récolte. La première récolte est vraiment la meilleure. Attendez, pour 4-5 ans, là, vous avez une très bonne récolte. Mais donc, c'est normalement l'année prochaine, vous allez commencer à faire la récolte de vos asperges.
Lise Ouellet, j'ai un taxus mature et à chaque année au printemps, certaines branches roussissent. Pardon. Cette année, elles sèchent sans changer de couleur. Pourquoi? Que faire?
OK. Donc, taxus, Michel, taxus, c'est le nom latin des if. Fait que c'est la même plante, taxus. Cette fois-là, ce n'est probablement pas le taxus du Canada, if du Canada, c'est probablement une vérité ornementale. Et le fait que la plante ait des branches qui grossissent ou qui revenus sur des feuilles qui grossissent, c'est la sécheresse l'hiver. Les aiguilles sont présentes en tout temps. Si le vent passe dedans, ça peut la sécher et faire roussir. Donc, quelques-unes, ce n'est pas la fin du monde, c'est un peu normal. Là, la description que vous faites, ça me fait croire que certaines branches sont peut-être carrément mortes. Éventuellement, ça va brunir. C'est probablement pas mort au complet. Vous allez avoir de la repousse. ça me fait penser que votre plante est peut-être pas à la bonne place au niveau zone. Elle aimerait peut-être une zone un peu plus chaude que la vôtre. Vous êtes à la limite pas mal. Ça arrive des fois quand vous avez une plante. Vous avez planté une plante de zone 5 en zone 4. Ça va bien, pas, et bien on dit que ça va bien, puis tout d'un coup, il arrive ça va moins bien. C'est un peu dans cette situation-là. C'est un peu trop froid pour cette plante-là. Donc, peut-être mettre beaucoup de paillis à l'automne ou lancer de la neige l'hiver dessus pour essayer de réduire la perte d'eau. Ce sont pas des choses à penser à l'avenir. Ou changer la plante de place pour un endroit plus protégé du vent. Parce que l'ennemi de la plante, c'est le vent, dans le fond.
Lise Doyon, est-ce trop tard pour bouturer des arbustes?
Non, on peut bouturer des arbustes à toutes sortes de saisons. De façon, la vitesse, le bouturage varie selon l'espèce. Certaines bouturent mieux quand elles sont en l'air, donc quand c'est du bois, mais on peut les bouturer presque en tout temps. C'est sûr que s'il y a des présences de boutons, de fleurs ou de fleurs, on les enlève pour le bouturage. Et c'est certain que pour quasiment tous les arbustes, ça prend une hormone d'enracinement. Mais autrement, donc c'est très bien. Donc, si on fait des boutures maintenant, c'est des boutures vertes. C'est les racines vont se former à partir du bois de l'année. Souvent, ce qu'on va faire, on va attendre que ça commence à ralentir un peu. Après la grosse croissance du début de printemps, on attend comme mois de juin à peu près, que c'est poussé, mais pousse plus vite. Sa vitesse est... C'est là où on va souvent prendre des boutures à cette saison-ci. Mais on peut prendre des boutures en plein été aussi.
Joanne Parent. Elle dit qu'elle veut planter un magnolia ces jours-ci. Que recommandez-vous? Mi-ombre, vent dominant, fertilisation ou plein soleil?
OK. Le magnolia est magnifique, superbe. Il faut devoir chercher une variété adaptée à votre climat. Et ça existe maintenant. Il n'y en avait pas avant les magnolias pour climat froid. Il y en a maintenant qui vont bien en zone 4, la rigueur en zone 3 maintenant. À vous de vérifier. Donc, choisissez de voir. Prenez les vérités adaptées à votre climat. N'essayez pas d'autre chose. C'est une plante qui est un sol riche, un peu humide, donc un endroit où conifères ou racines dominantes qui assèchent le sol, ce ne serait pas une bonne chose. Mi-ombre, ça va. Soleil, plein soleil, c'est tout à fait parfait. C'est même peut-être mieux, sauf que, comme c'est une plante qui porte le gros bouton de fleurs de l'automne et tout l'hiver, qui doivent éclater au printemps, comprenez que si c'est dans un couloir là, où il y a toujours du vent froid qui passe, ça, ça peut assécher les boutons. Donc, dans un cas semblable, d'essayer de trouver un endroit où le vent n'est pas si passant. Donc, ce serait, si vous avez à planter quelque part où il y a de la végétation, placez-le pour que la végétation absorbe le coup de l'air. Donc, du côté nord-ouest, peut-être avoir des arbustes, des arbres, des conifères, quelque chose qui vont ralentir la force de l'air pour donner une certaine chance à la plante. N'oublie pas que c'est une plante qui est très, très lente à s'établir. Donc, arroser bien la première année et la deuxième, peut-être même la troisième. Vous voulez vraiment qu'elle fasse de très bonnes racines. Et cette plante-là, ce n'est pas votre plante rapide, mais elle est tellement spectaculaire. Vous allez adorer, je suis certain.
Suzanne Bernard, est-ce qu'il y a deux sortes d'ail des bois? J'ai vu la tige florale rouge et une autre la tige florale verte.
C'est pour certain que vous ne confondez pas l'ail des bois avec autre chose, comme par exemple, alors je sais plus trouver son nom, la réalité nudiflore. En tout cas, moi, je ne sais pas. Je ne connais pas une forme à tige rouge. Et comme le floraison est si rapide, je vous dis, très honnêtement, je n'ai jamais prêté attention à la couleur de la tige. Donc, je soupçonne que ce soit d'autres choses. Mais je ne peux pas vous dire, malheureusement.
France Leblanc. J'aimerais enlever le pays de cèdre de mes plates-bandes. Quel serait le meilleur choix pour le remplacer?
Oh, n'importe quoi. La paillis de cèdre, souvent colorée, c'est pas une paillis. Les critiques principales, ce n'est pas riche. Ça donne pas grand-chose au sol. Par contre, il faut quand même le dire, ça fait tout ce qu'une paille devrait faire, sauf ça. Elle garde le sol plus humide, elle réduit les chocs de température trop subites, elle protège contre les gros froids, tout ce qu'on peut imaginer d'une paille, empêcher les mauvaises herbes de pousser. Donc, c'est excellent pour ça. Sauf que ça n'est pas efficace pour vraiment ce seul aspect. Ce n'est pas riche. Donc, si vous voulez le remplacer pour quelque chose de mieux, allez-y pour un paillis qui est plus riche. Et donc, moi, je dirais en premier lieu, si vous avez accès à ça, le bois ramiel fragmenté. On en a parlé un peu tantôt. Ce sont des branches d'arbustes et d'arbres qui ont été déchiquetées, jeunes, sont particulièrement riches et sont particulièrement bons pour stimuler la vie microbienne du sol. Donc, il y a beaucoup de bénéfices quand le sol est riche en microbes. Donc, ça peut être drôlement intéressant si vous êtes capable d'en trouver. Toujours le problème. Sinon, une paille de feuilles, déchiquetée est excellent. Ou encore, dans les pailles achetées, on peut penser au sarrasin, on peut penser à la paille et plusieurs autres. Mais en général, tout ce qui est bois de conifères, cèdre, prêche, peu importe, c'est toujours le même problème. C'est pas que c'est pas bon, mais c'est pas riche. C'est cet aspect-là qui manque au paillis de conifères. Et pourquoi ça? C'est que les conifères produisent beaucoup de on appelle ça des phénols, des produits chimiques qui réduisent la pourriture. Donc, on a... Voilà, c'est un exemple. Les tanins, des choses comme ça. Mais ces produits-là font en sorte que l'arbre se protège de son vivant, mais quand elle meurt, elle décompose très lentement. Quelque chose qui se décompose lentement n'est pas en train de livrer de la richesse au sol. Donc, c'est pas généreux, ce pays-là. C'est ça.
Aiden Knight, il dit bonjour. Comment empêcher les oiseaux de manger mes fraises autrement qu'avec un filet? Aussi, combien de temps doit-on garder la bâche sur une zone envahie par la menthe?
OK. Donc, on va la première question, bien sûr. C'est qu'est-ce que c'est qui peut protéger les fraises? Et moi, je pense que le filet est quasiment la chose la plus facile. On pourrait utiliser une couverture flottante, mais c'est l'équivalent. L'idée est de créer une barrière entre les oiseaux et les fraises. Mais, exemple, quelque chose qui ne marcheront pas. Pour les autres animaux, par exemple, une écureuil ou une suisse, on aurait pu mettre des produits qui sentent mauvais parce que ça va les faire peur. Les oiseaux ne sont pas vraiment affectés par l'odeur. Donc ça ne marcherait pas. Vous pouvez toujours essayer des choses quand on a un appareil qui bouge ou des choses qui bougent au vent ou on peut même acheter une faux hibou en plastique et le déplacer à gauche et à droite, faire croire qu'il y a des hiboux dans le coin. Ça peut marcher un certain temps. Mais le filet est quand même efficace en général. Fait que, des fois, c'est ça qu'il faut. Voilà. L'autre question, c'était combien de temps on doit garder une bâche? Bon, j'explique pour ceux qui n'ont pas compris. La bâche, ou la technique de bâchage, qu'on appelle, très connue en France, pas beaucoup au Québec, c'est une technique où on élimine des plantes indésirables en coupant toute lumière. Donc ici, c'est la menthe, ça peut être d'autres choses, des plantes qu'on ne veut plus. Et l'idée est de couvrir et d'enlever tout excès à la lumière. Alors, comprendre que si on a la plante est complètement à noirceur, elle n'aurait pas de lumière de soleil et l'énergie d'une plante vient du soleil. Donc, la plante va nécessairement finir par mourir parce qu'elle n'a pas d'énergie. Donc, on peut couvrir avec une toile noire, du tapis, quelque chose qui va couper complètement la lumière. Combien de temps la laisser? Ça dépend de beaucoup de facteurs, mais entre autres de la période à laquelle vous le mettez. Parce que l'idéal, c'est que la plante, ce qu'il faut viser, c'est minimum 12 mois sans lumière aucun. Par contre, si vous le placez, quand la plante est déjà en feuille, elle a déjà fait des réserves. C'est que ça ne compte pas pour aussi efficace. Comme les premiers mois ne comptent plus dans ce cas-là. Donc, si vous commencez quand la plante est déjà en feuille, il faudrait penser que le comptage commence à partir de l'automne, pas au printemps. Donc, normalement, c'est au moins 12 mois et 18 mois, c'est plus sûr. Et dans votre cas, vu que probablement, ça dépend qu'est-ce que c'est pas toutes les plantes qui sont sorties, et la menthe, je ne sais pas, mais c'est probablement un peu tard pour être 100% efficace actuellement. Vous aurez pu le poser à l'automne en vue de 12 mois, à partir de l'automne, ça aurait été aussi efficace. Voilà.
Joanne Demers, elle dit qu'elle a un plat de pivoine qui va fleurir cette année pour la première fois. Il y a beaucoup de fourmis sur les boutons. Est-ce dommageable pour les fleurs à venir?
Non, pas du tout. Les pivoines font exprès pour attirer les fourmis. Les fourmis sont bénéfiques pour les pivoines. Elles les protègent contre les ennemis. Il y a plusieurs insectes qui s'attaquent aux fleurs de pivoine. Mais les fourmis sont là. Elles sont attirées par le sucre que dégage la fleur. Elle a carrément des glandes qui dégagent du nectar, pas dans la fleur, comme la plupart des fleurs, mais à l'extérieur pour les attirer, pour leur protection. Donc, vous n'avez pas besoin de rien faire. C'est normal et c'est même bénéfique.
Cécile Grondin. Je dois déplacer ma pivoine. Est-ce préférable à l'automne et a-t-elle besoin de beaucoup de soleil?
Oh oui, l'automne, c'est beaucoup mieux. Je ne dis pas en cas d'urgence, je ne sais pas. Ils viennent demain matin avec une débroussaille, je ne sais pas, peu importe. Et, oui, déplacez quand vous pouvez. Mais non, c'est à l'automne. Vous comprenez que la pivoine fait seulement des feuilles une fois par année, juste au printemps. Si elles sont endommagées ou coupées, elles n'en font pas d'autres avant l'an prochain. Donc, lors d'une transplantation, on brise quelques racines, on brise quelques feuilles. C'est pas fort quand la plante fait ça une fois par année. On a mieux de faire à l'automne. Même si la plante est encore en feuille à l'automne, faut penser que elle n'est pas encore en pleine croissance. Elle est passée ce stade-là. Donc, ça ne dérangerait pas une transplantation. Il faut absolument planter au soleil. D'ailleurs, la raison principale pour laquelle les gens transplantent les pivoines, c'est que leur placement est devenu trop ombragé. Parce que sinon, on peut le laisser là 60 ans et plus. Ce n'est pas une plante qui a besoin de transplantation d'habitude. Mais trop d'ombre, ça nuit à la floraison. Donc, plein soleil si possible, et vous allez pouvoir regarder des années de temps. Et le point le plus important, quand vous transportez une pivoine, il faut toujours que les points de croissance ne soient pas plus que 5 cm profond dans le sol. 2 pouces, si vous voulez. Jamais plus que ça. Et je vous suggère d'aller voir sur un site, le site web de Joie de l'Hyper-Reçu, par exemple, comment transporter une pivoine. Ça vous donne des idées. Mais préférence, faites ça à l'automne.
On a un commentaire qui vient d'Europe. Angélique Manella a dit « Le muguet se vend une fortune en Europe le 1er mai. »
Oh oui, ben, je comprends aussi. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la fleur emblème du mois de mai, du muguet d'abord. Mais surtout, c'est le fait des travailleurs en France. Et le symbole, c'est le muguet. Et donc, l'industrie des bouquets de muguet est très, très fort. Au Québec, par contre, nous avons un problème. C'est que la plante ne fleurit pas au début de mai. Je ne sais pas, à Montréal, même à Montréal, je ne pense pas. Je sais que chez moi, il y a des boutons. Mais on n'a même pas rentré la floraison, puis c'est presque la fin du mois. Donc, ce ne serait jamais la même chose. Mais c'est vraiment pour cette journée-là. Après ça, le prix baisse. Mais les gens veulent avoir le muguet de mai. Là, il y a des chansons sur le muguet de mai. Hein? Donc, voilà, c'est une industrie, mais c'est aussi une tradition en France d'avoir un bouquet. Un bouquet à cette date-là. Voilà.
Lise Ouellette dit qu'elle a une autre question. Elle dit « Hier, j'ai découvert une infestation. » je pense, hâtive, sur mes 15 rosiers de tantraide, entre parenthèses, insectes, fausses chenilles, œufs. Je me suis dépêché à inspecter, vaporiser un mélange d'eau et de savon noir et enlever manuellement les insectes. Quoi faire d'autre?
Vous avez tout fait comme il faut. Simplement, regardez encore, c'est surtout les œufs. Puis dès, si jamais vous voyez que ça bouge le moindrement, remettez-en d'autres. Faites juste un peu attention avec le savon noir. Elle, habituellement, se va avec les rosiers, mais c'est quand même un produit un peu toxique. Donc, il ne faut pas trop en mettre. Savon insecticide serait beaucoup plus sécuritaire. Plus efficace et plus sécuritaire. Voilà.
Puis, Diane Cossette, puis-je couper mon saule crevette à ras le sol?
Bon, absolument, pourquoi pas? Cette plante-là, la plupart des saules sont comme ça. Hein? Vous les coupez, ça repousse. On les coupe de nouveau, ça repousse. Puis on peut le faire plusieurs fois. Beaucoup de gens vont en couper deux fois par année. Hein? Peut-être pas au ras de sol, mais tu... Quoi? 5 cm, peut-être. Ils coupent complètement au printemps pour avoir une belle croissance colorée, puis une plante de taille modérée. Puis ils vont le couper quand le feuillage, parce que la saule crevette a un feuillage rose et blanc et vert. Quand le feuillage commence à devenir plus verdâtre et moins de rose et de blanc, ils vont souvent recouper une deuxième fois, couper encore à 5 cm à peu près de hauteur, et la plante repart et rose de nouveau. Donc, c'est une plante qui, on dit dans le langage horticole, le sol répond bien à la taille. On la taille et ça repousse, et elle le fait très rapidement.
Isabelle Giasson a dit, lorsque vous aurez une minute, rien qui presse, connaissez-vous une source d'information fiable concernant les différents Hoya? J'aimerais trouver les différentes variétés et sous-classes. Merci infiniment.
Oh là 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 là. OK. Et c'est... D'abord, il y a beaucoup d'espèces. Et il y a beaucoup de variétés différentes. À une certaine époque, j'étais membre d'une société de Hoya, sans farce. Je ne pense pas que ça existe de nos jours. Mais là, on avait beaucoup de renseignements. Moi, je ne sais pas si les renseignements en français d'abord, mais en anglais, ils devraient en avoir quelque part. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de variétés. Et c'est la confusion totale. Je vous pourrais peut-être essayer de voir pour une autre semaine, voir si je peux trouver un site qui est potable. Parce que c'est beaucoup, beaucoup. En fait, juste pour les gens qui ne comprennent pas, le Hoya est une plante d'intérieur pour nous, qui est une plante qui fait des feuilles cirées, vertes ou des fois bicolores, et des fleurs ombelles, souvent blanches ou roses, et qui sont parfumées, en général. À croissance lente, mais sûre, les gens le trouvent facile à cultiver, et pas vite. Ils ont raison, c'est pas vite. Mais le compte, c'est vérité, et les exceptions, il y en a plein. Donc, je vais essayer de penser si je ne peux pas trouver un site qui a de l'allure. Encore cette valeur, mais je pense que les sociétés d'Oria qui existent autrefois n'existent plus maintenant.
Tu avais terminé?
Oui.
OK. On va y aller avec maintenant la question de Thérèse Forant. Mon rhododendron a fleuri en fou l'année dernière. Cette année, la floraison est rare et beaucoup de feuilles ont rougi et tombent. Puis-je faire quelque chose pour que la floraison soit normale l'an prochain?
Bon, c'est comme beaucoup de plantes, beaucoup d'arbustes, je devrais dire beaucoup d'arbres. Et souvent, ils vont tomber dans une espèce de habitude de faire une grosse floraison une année, puis une moindre, puis une grosse, puis une moindre, l'une après l'autre. C'est pas aussi vrai que ça au Québec, surtout parce que notre climat, des fois, ralentit ça. Mais l'an dernier, c'est sûr que la plante est prête. C'est peut-être un peu vide, ces réserves. Peut-être mettre l'engrais, évidemment, sans exagération, et vous verrez bien. Mais normalement, et évidemment, peut-être aux 4-5 ans, faites une analyse de sol, parce que c'est certain que cette plante-là aime vraiment le sol acide. Et c'est pas évident que vous allez pouvoir le juger comme ça. Il faut vraiment faire une analyse en laboratoire et corriger au besoin.
Marie-Claude, pardon, Laure. Elle dit, question de compost. J'ai un baril sur support métal que l'on tourne comme composteur. J'ai un mini terrain et l'espace soleil est contingenté. Est-ce qu'à l'ombre, le processus va se faire quand même? Merci.
Oh oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Aucun problème. Le compost n'a pas besoin de chaleur. De soleil pour ça. Il reste quand même qu'au Québec, à cause de notre climat, ça va plus vite quand il y a de la chaleur. Mais vous avez quand même, vous avez un composteur qui est rotatif, si j'ai bien compris. Donc ça va stimuler encore plus les microbes que d'habitude. Donc ça compense un peu, disons, si vous le mettez à l'ombre. Moi, je dirais que c'est plus au printemps ça va peut-être prendre plus de temps à partir. Une fois parti, ça devrait être bien, je pense, votre production. Mais ce n'est pas un problème de faire.
Prochaine question, Cynthia Dulude Perso. Question Tulip. Est-ce que ça se peut réussir? Est-ce que ça peut réussir en bac au Québec? Exemple, un bac en bois.
C'est pas évident. Là, vous avez un problème. C'est que le tulip a une période de croissance hivernale, sans force. Je n'exagère pas. Ça pousse pendant l'hiver. Et là, le sol gèle complètement en bac. Et complètement. Donc, en plein terre, qu'est-ce qui se passe? Ça va bien. En plein terre, on les plante à l'automne. Les racines ont commencé à se former. Quand le sol commence à geler, elle continue de se former. Quand le sol gèle, ça arrête. Quand ça dégèle un peu sous la neige, ça recommence. Donc, c'est drôle à dire. Pendant l'hiver, la plante pousse. Bon, voilà, elle peut continuer sa croissance à cause de ça. Si c'est en pot, le foie arrive net et c'est fini. Aucune croissance. Ça va rester gelé complètement jusqu'au printemps. Et donc, la plante n'a pas le temps de se reprendre. Habituellement, ça se met à pourrir. Donc, peut-être dans un gros contenant, avec une masse de terre autour, ça pourrait marcher. Mais d'habitude, dans un contenant, un bac, peu importe, le foie rentre de tous les côtés. C'est pas normal. Hein? Dans la nature, le foie rentre par le haut. Les plantes sont habituées. C'est normal que le foie rentre par le haut, qu'il est sang. En plein hiver, ouais, de côté et surtout en bas. Donc, ça dérègle la croissance. Les bulbes comme les tulipes, ça va très bien ailleurs, mais au Québec, on est juste un peu trop froid pour ça.
Eh bien, ça va être pas mal déjà la fin de l'émission, mon cher Larry.
Ben, dans ce cas-là, je vous souhaite une bonne semaine à tout le monde. J'espère que vous avez aimé l'émission de cette semaine et que vous allez revenir la semaine prochaine. On va toujours à la même heure, toujours mercredi à 10h, à la même place. Et bien sûr, remercie toujours Michel Bédard, que vous entendez. Et vous avez Marlène Baudelot, qui fait le même travail un peu côté de Sequoia, que vous n'entendez pas. Maintenant, mes deux coéquipiers, merci beaucoup. Et bon jardinage tout le monde, la semaine prochaine.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en disant « Thank you very much, Monsieur Trenet ». On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Espace Région de Québec, un organisme en prévention de la violence faite aux enfants, célèbre ses 30 ans cette année. Pour cette occasion, vous êtes invité à une fête familiale le dimanche 5 juin au domaine de Maizeray. Plusieurs prix de présence et activités vous attendent. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour les familles. Pour connaître les détails, rendez-vous sur la page Facebook d'Espace Région de Québec.
Pour tout savoir sur la programmation de CKIA, pour connaître ses activités, pour être au courant des événements culturels et communautaires de Québec, visitez le site Internet de la station au ckiafm.org ou branchez-vous sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter. Vous écoutez CKIA 88.3 FM, la seule radio progressiste de Québec.
Vous êtes un ou une mordu de l'actualité? Vous voulez savoir ce qui se passe aux quatre coins du Québec? Nous avons ce qu'il vous faut. À chaque semaine, Édition nationale vous convie à un tour complet de l'actualité, région par région, en compagnie des journalistes des différentes stations de l'Association des radios communautaires du Québec. Édition nationale, c'est tous les jeudis 16h à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Culture, c'est votre grand rendez-vous culturel et épicurien en compagnie de Julie Réaume.
Musique, entrevues avec des grands noms, des artistes de la relève, arts visuels, arts de la scène, choix de sortie, grands événements, bouffe et plus encore. Culture, c'est à ne pas manquer tous les jeudis, 11h, sur CKIA 88,3 et ckiafm.org. On vous y attend.
Bonjour, ici Boris Chassagne. Pour découvrir l'actualité locale d'un bout à l'autre du pays, écoutez l'émission Point de vue. On vous présente des reportages, portraits et entrevues réalisés par nos journalistes postés dans des provinces et territoires canadiens, société, art, culture, environnement, affaires publiques, l'information locale destinée à un auditoire national. Mercredi